Borgia. Chapitre 30. Perplexité d'un jardinier. Ragastens et ses deux amis s'étaient installés à l'entrée de Tivoli, dans un coin écarté, en une auberge de pauvre apparence, à l'enseigne du Panier Fleuri. Le Panier Fleuri, modeste et retiré, avait naturellement attiré l'attention de Ragastens. Dès que Spadacape eut mis les chevaux à l'écurie et que les trois amis se furent quelque peu restaurés, Ragastens sortit seul à pied. Il revint, une heure plus tard, avec un paquet de vêtements sous son bras. Il disparut aussitôt dans la chambre qu'il occupait. Pendant ce temps, Machiavel s'occupait de tracer sur un papier le plan de la villa du pape. Il l'avait visité l'année précédente et en avait présente à la mémoire la disposition intérieure dans ses principales lignes. Lorsque Ragastens reparut, il était transformé, presque méconnaissable. Il avait l'apparence et la tournure d'un de ses étudiants allemands qui, à cette époque, venait assez souvent en Italie pour puiser aux sources la science des anciens. « César lui-même ne me reconnaîtrait pas, » dit-il. « Je puis maintenant essayer d'aborder la place. »« Nous vous accompagnons, » s'écria Raphaël. « Non, mon ami, il ne s'agit, pour aujourd'hui, que d'aller chercher des munitions, c'est-à-dire des renseignements. Ne craignez rien. » Lorsqu'il faudra livrer bataille, vous en serez, mordieu. Mais ne puis-je vous aider dès aujourd'hui ? Insista le jeune peintre qui bouillait d'impatience. Laissons faire le chevalier, intervint Machiavel. À la bonne heure. Et en attendant, vous pouvez tous les deux vous préparer à la besogne qui sera rude.
Avez-vous donc un plan pour enlever Rosita ?
Non, fit Ragastens. C'est un autre qu'il s'agit d'enlever.
« Un autre ? Qui donc ?»«
Le pape !» Et il sortit, laissant ses deux amis stupéfaits.
« Il a raison, » dit enfin Machiavel. « L'idée est admirable. En effet, morte la bête, morte le venin. Qui menace Rosita ? C'est le vieux Borgia. C'est donc lui que nous devons viser tout d'abord. Et il est certain que, si nous parvenons à mettre la main sur lui, Rosita est sauvée du coup. »
« Ah, Raphaël, le chevalier est vraiment un homme précieux !»
Ragastens, dans cette affaire, était peut-être plus admirable que ne le supposait Machiavel. Son cœur, à lui aussi, était plein d'amour et son esprit plein d'inquiétude. Lui aussi aimait. Et pourtant, il ne disait rien. Ses inquiétudes d'esprit et ses peines de cœur, il les tenait cachées. Seulement, il avait adopté vis-à-vis de lui-même un arrangement qui lui semblait concilier ses intérêts et ceux de son ami Raphaël.
« Tivoli, s'était-il dit, est sur la route de Monteforte. L'armée de César Borgia doit nécessairement passer par ici. Lorsque je verrai défiler les canons, les cuirasses et les estramaçons, je verrai. En attendant, Ragastens descendait à grands pas vers la villa du pape, autour de laquelle il erra pendant le reste de la journée. En revenant le soir, au Panier Fleuri, il dit à ses amis
« Voici un petit commencement de renseignements. Nous savons maintenant la force de l'ennemi. Il y a, dans la villa et ses dépendances, 50 gardes armés, plus une trentaine de laquais de tout ordre, plus une vingtaine de secrétaires, ecclésiastiques, seigneurs et évêques. Il est sûr que nous avons affaire à forte partie, mais nous n'en aurons que plus de mérite, morbleu. »
Le lendemain, de bonne heure, il se remit en route vers la villa. Il avait, la veille, fait causer un domestique. Il espérait mieux cette fois. Caché derrière une masse de rochers, abrité parmi les hautes touffes de fougères, il surveilla la villa et ses abords. Et, comme il était placé plus haut, sur le chemin de Tivoli, il put même entrevoir une partie des jardins de l'intérieur. Il y avait une heure que Ragastin s'occupait ce poste, étudiant avec attention les allées et venues des gens qui entraient ou sortaient, quand il vit venir de son côté un vieillard qui marchait lentement en s'essuyant le front. Cet homme venait de sortir de la villa par une petite porte du jardin qui ouvrait sur la route même de Tivoli. « Voilà mon affaire, peut-être, » pensa Ragastens. Il sortit aussitôt de son observatoire et se porta à la rencontre du vieillard qui portait un costume à demi bourgeois, à demi campagnard. Parvenu à sa hauteur, il le salua avec une politesse et un sourire tel que le bonhomme, surpris, s'arrêta. « Guten Morgen !»« Bonjour !» dit Ragastens. C'était d'ailleurs tout ce qu'il savait d'allemand. « Non capisco, signor. »« Je ne comprends pas, monsieur, » répondit l'homme. « En ce cas, je parlerai italien, » reprit Ragastens en souriant et en écorchant de son mieux la langue de Dante. « Mais vous m'excuserez de m'exprimer si mal. »«
Vous êtes donc étranger ?»«
Allemand, pour vous servir. »« Allemand, me rendant à Rome pour diverses affaires et notamment pour tâcher de voir, ne fût-ce que de loin. »
L'illustre Saint-Père Alexandre Borgia, que Dieu le favorise !»
Ragastens ôta sa toque. Le bonhomme en fit autant.
« Amen !»
dit-il. Puis il reprit aussitôt. « Mais, jeune homme, vous risquez fort de ne pouvoir satisfaire votre pieuse envie, car sa sainteté n'est pas à Rome.
Ah, quel malheur ! Moi qui viens si loin, et à pied encore !»
Le Saint-Père est ici, dans sa villa, dont il ne sort jamais.
Comment le savez-vous?
Auriez-vous donc le bonheur et l'honneur d'être de ses familiers? Le vieillard se redressa.
Je suis le jardinier en chef de sa villa de Tivoli, et je le vois presque tous les jours se promener dans les jardins.
Jardinier! S'écria Ragastens.
Touchez là, monsieur.
C'est aussi l'art que j'étudie.
« Ah, le jardinage, art sublime, dont les secrets se perdent de plus en plus !»«
Comment, jeune homme ?» fit le vieillard, flatté d'entendre ainsi parler de son métier.
« Vous aussi, vous cultiveriez la science des fleurs et des plantes ?»«
C'est-à-dire que je n'ai jamais eu d'autre ambition. Et je dois vous avouer qu'outre mon désir de voir l'illustre Saint-Père, ici Ragastens ôta sa toque et le vieillard bredouilla un amen à tout hasard. Ce qui m'a poussé à venir en Italie, c'est encore,
c'est surtout, le désir d'étudier ces superbes jardins dont la renommée est venue jusqu'en Allemagne, et entre autres, les jardins de Tivoli.
Quoi ? On parle des jardins de Tivoli en Allemagne ?
Monsieur, on en parle dans le monde entier.
Le bonhomme leva les yeux au ciel. Il connaissait l'enivrement de la gloire. Convaincu que ces jardins dont la réputation était universelle ne pouvaient être que ceux de la villa du pape, c'est-à-dire ses jardins à lui, il eut un sourire extasié.
« Ainsi, jeune homme, vous voulez être jardinier ?
C'est là mon ambition. » Et j'ai tout lieu de croire que je ferai quelques progrès dans cet art que j'étudie déjà depuis plusieurs années.
Savez-vous hanter ?
Oh, la greffe n'a déjà plus de secret pour moi. J'ai transformé des poiriers en pommiers, et je suis arrivé à faire donner des oranges à un citronnier.
Peste ! Et les fleurs, jeune homme ?
C'est mon fort. Je connais les 2000 espèces de roses, les 300 familles de géranium,
l'âge d'un réséda, d'une citronnelle, d'un œillet.
Je vous dénombrerai les variétés d'Ulys et les genres du pavot. Le jardinier du pape écoutait, bouche béante.
« Ce jeune homme est un puits de science, » se dit-il.
« Et les fruits, monsieur, les fruits, » ajouta-t-il.
« Oh, les fruits, les fruits !»
Auriez-vous négligé cette branche si importante de...
Moi ? Fi donc ! Les fruits, mais c'est la couronne la plus précieuse de notre art.
Tenez ! Ragastens avait saisi le bras du vieillard.
Parlez !
fit celui-ci avec émotion. « Eh bien, j'ai trouvé... Dois-je vous le dire? Me garderez-vous le secret?
Je le jure par la Madone, par Saint Boniface et par Sainte Pétronille.
Oh, alors... Eh bien, j'ai trouvé une variété de pêche qui n'existe nulle part.
Serait-ce possible? S'exclama le vieux jardinier.
Agastins remua gravement la tête de haut en bas. Le bonhomme s'assit sur une pierre, à l'ombre de quelques arbousiers. Les choses devenaient graves, et il avait besoin de se recueillir. Agastins prit place près de lui.
« Maître, fit-il tout à coup, voulez-vous me montrer les jardins du Saint-Père, ces jardins que je suis venu voir de si loin ?»
Le jardinier tressaillit d'aise et d'angoisse. D'aise parce que, pour la première fois de sa longue vie, il trouvait quelqu'un qui comprenait son âme de jardinier, quelqu'un qui l'appelait maître. D'angoisse, parce que la demande imprévue lui faisait pressentir qu'il allait être livré au démon de la tentation. Il tourna vers le chevalier, impassible, un regard scrutateur.
« Jeune homme, demanda-t-il, comment vous nomme-t-on ?
Petrus Manin Bauerkircher.
Amen, fit le jardinier effaré.
Moi, je m'appelle Boniface Bonifazi.
Eh bien, monsieur Petrus, vous voyez en moi un homme désespéré.
En effet, lorsque j'ai eu l'honneur de vous rencontrer, j'avais remarqué votre tristesse.
Puis-je en savoir la cause ?
À un confrère tel que vous, je ne veux rien cacher.
C'est curieux, mais vous m'inspirez confiance.
Confiance partagée, illustre maître.
Vous disiez donc que...
Boniface savoura encore le qualificatif de maître qu'on lui octroyait. Puis il reprit, attendri,
eh bien, monsieur Petrus, jamais je ne me rappellerai votre autre nom.
Sachez donc que les pêches sont la gourmandise préférée de notre Saint-Père.
Entre nous, je crois qu'il ne vient à Tivoli que pour en manger.
Ah, ce que vous me dites là m'enchante. Moi aussi j'ai toujours préféré la pêche à tout autre fruit.
C'est épouvantable, monsieur. Cette année, je n'aurai que des pêches piquées. Je n'ai pu sauver qu'un espalier de la contagion. Mais arriverai-je à le préserver jusqu'au bout?
Or, savez-vous ce qui arrivera si je n'ai pas de pêche?
Dites, maître, je serai pendu.
Vous m'effrayez, pendu, pour des pêches?
C'est comme cela. L'an dernier, lorsque j'ai annoncé à sa sainteté qu'un de mes péchés était perdu de piqûre, elle m'a répondu tranquillement
« Arrange-toi comme tu voudras, mais le jour où je manquerai de pêche, je te ferai pendre à celui de tes péchés qui aura été le plus atteint. Cela le guérira peut-être. »
« Je vois que sa sainteté ne dédaigne pas la plaisanterie.
Mais je vous sauverai, maître. Ne redoutez plus rien. J'ai un secret infaillible pour préserver la pêche.
« Ah, jeune homme !» s'écria le vieux jardinier en saisissant les deux mains de Agastins.
« C'est le ciel qui a eu pitié de moi en vous envoyant à mon secours.
Dites-moi votre secret et ma reconnaissance. »«
Impossible, » fit Agastins en hochant la tête. « Il faut que j'opère moi-même. »«
Mais, » balbutia le jardinier, « pour que vous puissiez opérer, il faut donc que vous entriez dans les jardins. »
Ah, cela me paraît indispensable.
Mais alors, je serai tout aussi bien pendu.
Comment cela?
Écoutez, seul, je puis entrer dans le jardin particulier du Saint-Père. Seul, avec mes aides que je dois étroitement surveiller.
Sa sainteté a tant d'ennemis. Vous comprenez?
Non, je ne comprends pas, fit Agastins avec sa figure la plus naïve.
« Bon jeune homme, soupira le jardinier, c'est que vous ne croyez pas au mal, vous.
Mais il y a des méchants qui seraient capables d'empoisonner les fruits que doit manger le Saint-Père.
C'est horrible !
Oui,
et sa sainteté prend ses précautions. Elle a mis en moi toute sa confiance. Mais elle m'a prévenu que si jamais, pour n'importe quel motif, même pour un instant, un étranger entrait dans les jardins, je serais écorché vif ou à tout le moins pendu.
Diable ! Pendu pour avoir laissé les pêches se piquer, pendu pour introduire dans le jardin celui qui, seul, peut sauver les pêches. L'alternative est dure.
Hélas ! À qui le dites-vous ? N'en parlons plus, vénérable maître. Après tout, peut-être arriverez-vous sans mon aide à préserver votre dernier espalier.
J'en doute. Il est vrai que seul, vous auriez su que j'étais entré. Il est vrai que je me serais parfaitement caché et que le Saint-Père eût toujours ignoré cette légère infraction.
Jeune homme, vous me tentez. Il est vrai que je vous eusse non seulement préservé de la pendaison en sauvant les pêches menacées, mais encore rendu glorieux à jamais en vous faisant connaître la greffe admirable que j'ai inventée.
Oh, monsieur Pétrus, taisez-vous, taisez-vous.
Il est vrai, enfin, que vous fussiez devenu possesseur d'inestimables secrets.
Mais, puisque c'est impossible, n'en parlons plus.
Jeune homme, je me décide. Vous entrerez.
À quoi bon vous exposer à une réprimande ?
Car je ne crois pas, moi, le Saint-Père capable de vous pendre pour si peu.
Puisque personne ne saura.
C'est vrai, je me cacherai si bien que nul que vous ne me verra.
Mais votre conscience ne vous reprochera-t-elle pas ce manquement à vos devoirs ?
Tenez, n'en parlons plus.
Dieu, que vous êtes naïf. Ne vous inquiétez pas de ma conscience. Il faut que vous entriez.
Ma foi, puisque vous le voulez.
Écoutez, je suis logé dans un petit pavillon du jardin. Le soir, à 8 heures, mes aides s'en vont. Ils logent dans les communs. Alors, je ferme toutes les entrées du jardin et personne ne peut plus entrer, excepté sa sainteté qui, parfois, vient se délasser, parmi les fleurs, des soucis de son pontificat. Ce soir, à 10 heures, présentez-vous à la petite porte que vous apercevez là-bas. Je vous ferai entrer, et vous travaillerez la nuit. Le jour, vous demeurerez caché dans mon logis.
J'accepte, pour vous rendre service, maître.
En revanche, je vous ferai visiter en détail les jardins, et je vous ménagerai une occasion de voir le Saint-Père sans qu'il puisse vous voir.
Oh ! Vous comblez tous mes vœux !
Ainsi donc, à ce soir, à la petite porte.
Là-dessus, le bonhomme serra avec effusion les mains de Ragastens et se mit à descendre vers la villa pontificale, tandis que le chevalier remontait vers Tivoli en s'efforçant de conserver une allure paisible pour ne pas trahir sa joie.
« Nous tenons le Borgia !» dit-il en arrivant au panier fleuri.
« Attention à la manœuvre, mes amis. C'est ce soir que nous entrons en campagne !»